Bonjour à nos amis de Radio Massabielle. Changement de style, changement de rythme. Après Tisséleste, eh bien c'est Stéphane Grappelli. Nous reprenons le cours de nos émissions hebdomadaires qui tournent autour du thème général des catastrophes naturelles, on va dire, des risques que la nature nous réserve ici en Guadeloupe. La fois dernière, nous avions eu à discuter des travaux d'analyse de sol et de la collaboration qui existait entre les géophysiciens, les géologues, les architectes, les bureaux d'études qui font les calculs de résistance et qui permettent aux entrepreneurs de réaliser des fondations suffisamment solides pour supporter un bâtiment en fonction donc du terrain sur lequel on est. Donc on va rester un petit peu dans cette ambiance-là, mais avec M. Largesse, qui est ingénieur géotechnicien, nous allons parler plus précisément d'un phénomène qui n'est peut-être pas très fréquent en Guadeloupe, mais qui a déjà causé des dégâts considérables dans certains points de la planète, à savoir les mouvements de terrain. C'est bien ça, M. Largesse ?
C'est bien ça. Bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs de Radio Massabielle. Merci de m'avoir invité. Donc effectivement, permettez-moi juste de me présenter.
Oui, absolument, donc, j'allais vous en prier.
Merci. Donc je suis François Larger, je suis ingénieur géotechnicien dans un bureau d'études qui s'appelle IMSRN. Ça veut dire ingénierie des mouvements de sol et des risques naturels. On est basé à Petit-Bourg. Et effectivement, j'interviens sur la Guadeloupe depuis plus de 10 ans. Sur les problématiques de mouvement de terrain, les études de sol qui sont réalisées en amont et les projets qui sont réalisés potentiellement dans des zones à risque sur la Guadeloupe, que ce soit en Grande Terre ou en Basse Terre.
L'actualité immédiate, c'est la route de la traversée.
Tout à fait. C'est un hasard.
On peut déjà en dire un petit mot, peut-être, pour que nos auditeurs situent...
Effectivement, bon, la route des Mamelles, on sait que c'est la route, une des routes les plus à risque sur la Guadeloupe. C'est une route qui est très exposée, justement, à ces phénomènes de mouvement de terrain. On a des problèmes sur globalement tout le linéaire de la route des Mamelles, tout simplement parce que c'est une route de montagne, c'est une route qui traverse des zones qui sont très en pente, avec des matériaux, c'est-à-dire des sols qui sont assez fragilisés, et on sait aussi qu'on est dans des zones, comme au niveau de la Soufrière, où il pleut beaucoup dans l'année, on peut avoir des gros épisodes pluvieux, et tout ça engendre à intervalles plus ou moins réguliers, des phénomènes de mouvement de terrain. Et malheureusement, ces phénomènes de mouvement de terrain peuvent par moment atteindre l'axe routier principal et bloquer la circulation dans les deux sens.
On va rappeler quand même que les montagnes sont en quelque sorte des organismes vivants. Le
oui.
Profil d'une montagne évolue dans le temps.
On peut un peu dire ça.
L'érosion, c'est un phénomène constant.
La montagne, elle est née un jour, elle mourra un jour, et pendant sa durée de vie, il y a des évolutions de sa forme. La montagne cherche, entre guillemets, à retrouver une forme d'équilibre, et tant que cette forme d'équilibre n'est pas retrouvée, on a des phénomènes de mouvement de terrain qui sont des phénomènes tout à fait naturels. Donc il existe aujourd'hui des solutions qui permettent de se protéger par rapport à ces phénomènes-là, mais c'est vrai qu'on sait que toute route montagneuse est par définition une route exposée à ces phénomènes-là.
D'accord, donc il faut l'apprivoiser, il faut travailler avec.
Il faut travailler avec, il faut l'ausculter, il faut la surveiller, il faut essayer de prévoir les gros problèmes à venir et il faut essayer, année après année, de mettre en place des ouvrages, des pansements, des solutions qui permettent de soit d'arrêter les phénomènes en cours, soit de prévoir des phénomènes futurs.
Donc ça veut dire qu'il y a des équipes qui passent régulièrement sur tout le trajet, hein,
tout à fait,
qui regardent, qui observent.
Tout à fait.
Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on peut souhaiter que les utilisateurs, les usagers de la route, quand ils voient quelque chose d'anormal, le signal à une autorité quelconque.
Oui, c'est de toute façon, bon, régulièrement, on a les équipes de route de Guadeloupe qui inspectent la route et qui surveillent d'éventuelles apparitions de phénomènes à risque. On a aussi le Conseil général qui prévoit régulièrement, année après année, des études dans les zones qui leur sont désignées comme à problème. On a, nous, les géotechniciens, qui réalisons des études sur des zones qui ont soit déjà déclenché un phénomène, soit qui sont à l'état naturel, mais qu'il faut surveiller. Et puis, effectivement, le premier témoin de tout ça, c'est l'usager qui prend la route tous les jours et qui peut éventuellement, un jour, après une grosse pluie, dire « Attention, là, j'ai repéré des fissures, j'ai repéré des mouvements d'arbres ou des mouvements voilà. de rochers qu'il n'y avait pas avant. » Ça vaudrait peut-être le coup d'aller faire venir des experts sur le site pour étudier ces risques-là.
Oui, parce que j'imagine que les professionnels de la route, c'est-à-dire les taxis, les transports en commun, les transports au poids lourd, qui font le trajet tous les jours,
oui.
Ils peuvent un matin dire « Tiens, hier, c'était pas comme ça. »
Tout à fait, hein, tout à fait.
Et c'est vrai que c'est... À ce moment-là, il faut le signaler à qui ?
Alors, à ce moment-là, il faut le signaler en premier au service de route de Guadeloupe. C'est eux qui gèrent...
Ou à la gendarmerie, qui fera le relais.
Je dirais plutôt quand même le service de route de Guadeloupe. Ils sont basés à Jarry. Je ne connais pas leur numéro en tête, mais...
Oui, mais voilà, l'usager non plus ne connaît pas trop.
Bon, bah, dans ce cas-là, effectivement...
Mais enfin, le geste citoyen, c'est ouais. de signaler quand même.
Voilà, on peut, c'est vrai, appeler la gendarmerie. On connaît bien leur numéro. Et après, la gendarmerie désignera route de Guadeloupe ou une autre personne pour aller faire venir, pour faire une expertise. Et ensuite, c'est le Conseil général qui est propriétaire de la route des Mamelles, oui, étant oui. une route départementale, qui décidera de lancer des études coûteuses pour voir quelles solutions on met en place pour soigner les problèmes. Mais effectivement, dans un premier temps, on peut appeler la gendarmerie ou route de Guadeloupe pour prévenir d'un risque potentiel.
Alors, monsieur, en fait, je me souviens avoir lu, mais il y a déjà longtemps, je ne sais plus dans quoi c'était, que les arbres et les arbustes ont des racines qui fonctionnent différemment. Mm-hmm. Il y en a qui descendent en profondeur, oui. il y en a qui s'étalent en largeur, etc. La forêt naturelle remplit son rôle, mm-hmm. mais pour les questions d'esthétique, par exemple, on a eu l'occasion de planter autre chose, des oui. bambous oui. ou des arbres un petit peu plus esthétiques que la forêt naturelle, mm-hmm. le long de cette route. Est-ce que ça a été fait avec précaution ? Je veux dire, est-ce que les pépiniéristes ou les gens qui ont conçu la disposition de ces arbres et de ces arbustes ont tenu compte de cet élément de d'enracinement et de maintien de la stabilité des sols
bon, pas forcément. Pas
si forcément pose la question,
toujours.
C'est que
ouais, voilà, pas forcément. Bon, faut dire aussi que cette prise en compte des phénomènes de mouvement de terrain, elle est quand même assez récente dans le temps. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, on parlait pas de phénomènes de mouvement de terrain. On n'avait pas trop la connaissance de ces phénomènes-là, de leurs causes, de leurs conséquences. Et on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, il y a des végétaux qui ont un développement racinaire beaucoup plus profond et qui permettent de tenir beaucoup mieux les sols. Aujourd'hui, on voit par exemple le long des principaux axes routiers des plantations de vétiver. C'est oui. des plantes qui ont un développement racinaire profond et qui permettent de tenir les sols dans des zones très en pente.
Voilà, alors bon, par exemple, on est resté un petit peu bon. Sur l'exemple de la route des Mamelles parce que bon,
c'est l'actualité.
Voilà, et puis c'est significatif. Ouais. Mais il y a beaucoup de portions de route, notamment entre Pointe-à-Pitre-et-Basté, ouais. avec, comme vous le disiez, des talus quasi verticaux.
Quasi verticaux.
Moi, quand j'ai vu travailler les machines pour préparer les sols et aménager ces nouveaux circuits routiers, que ce sont souvent des déviations de communes, mm-hmm. je me suis toujours posé la question, mais les gens sont imprudents de faire des talus aussi verticaux dans un pays où on sait qu'il pleut énormément. Alors, je me doute bien qu'il y a aussi là des études préalables, mais est-ce qu'il n'y a pas un niveau d'imprudence ou de légèreté, soit dans la conception, soit dans la réalisation ? puisque à Sainte-Marie, maintenant, il y a eu un travail colossal, d'enrochement, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça.
On appelle ça un mur en gabion. En fait, c'est des enrochements qu'on met dans des cages grillagées.
Voilà, parce que si on n'avait pas fait ça, je crois que la maison dessus serait descendue sur la route.
C'est possible.
Donc c'est dommage d'en arriver là. Il aurait fallu, dès le départ, éviter de provoquer ce...
Bon, là encore, je...
Parce qu'on est là pour parler des risques naturels, c'est un risque presque
humain, technologique. On est dedans, c'est clair. Mais je ne parlerai pas forcément d'imprudence, parce que, là encore, l'année où a été faite la route qui relie Pointe-à-Pitre à Basse-Terre, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, en 2014, sur les mouvements de terrain. Je ne vais pas être négatif sur tout l'axe routier qui a été fait. C'est sûr qu'il y a des portions qui auraient dû être faites autrement. On aurait dû faire des talus moins pentus, moins inclinés. Oui. Peut-être faire des marches comme un escalier aussi, quand il y a beaucoup de pentes. Mais il y a aussi des portions qui ont quand même été bien traitées. Et on voit quand même que certaines personnes, sans avoir encore le savoir technique qu'on a aujourd'hui, avaient quand même une intuition...
Du bon sens.
Du bon sens, tout à fait. Ouais, une logique de ce qui peut se passé, et on voit qu'il y a des aménagements qui ont été faits sans études préalables et qui sont déjà des aménagements intéressants. Je pense à des enrochements qui ont été faits, je pense à... On parlait de l'ouvrage qui est à Sainte-Marie, l'ouvrage colossal. En fait, on se rend compte que cet ouvrage-là, aujourd'hui, il est calculé, on fait ça sur des ordinateurs, mais en fait, ça existe depuis très longtemps, de mettre des enrochements dans des cages plus ou moins en fer, plus ou moins en grillage. Et on s'est rendu compte que faire cet ouvrage-là, ça permettait de tenir les sols. Et pourtant, il y a 20-30 ans, on n'avait pas encore les calculs derrière pour prouver que ça tenait. D'accord. Donc il y a quand même eu, à un moment donné, une logique et un bon sens qui s'est développé là-dessus. Mais bon, c'est sûr que pour nous, c'est un travail continuel de surveiller et de traiter les zones à risque éventuelles. Et notamment, c'est vrai sur la basse terre. Sur la grande terre, on a quand même beaucoup moins de problèmes puisque les terrains sont plus rocheux, sont plus calcaires. Mais quand même, dans la zone des grands fonds, dans la zone de Gosier-Sainte-Anne, là où on voit les grosses falaises en bord de route, là aussi, il y a des problèmes potentiels.
Et les talus verticaux, ce que les gens ici appellent des falaises, c'est pas le seul risque de mouvement de terrain. Il y a aussi des problèmes apparentés à la liquéfaction.
Oui. Alors, je dirais plutôt qu'il y a deux gros... quand on dit mouvement de terrain, ça englobe à la fois les glissements de terrain, donc c'est des volumes de terrain qui chutent dans une pente, qui dévalent, comme aux mamelles, par exemple. Et puis, il y a ce qu'on appelle les chutes de blocs rocheux. Alors, par exemple, sur les grands fonds, quand on a des blocs qui sont dans la pente et qui sont assez instables, il suffit d'une petite secousse sismique ou d'une forte pluie, et ce bloc-là va rouler dans la pente. Et on a par moment des problèmes sur des maisons existantes qui sont partiellement détruites à cause de ce gros bloc qui a dévalé dans la pente. Donc c'est principalement ça, les deux gros soucis quand on parle de mouvement de terrain. D'accord. La liquéfaction, c'est un petit peu un phénomène annexe. Si vous voulez, il faudra qu'on fasse une émission spécialement sur la liquéfaction, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais c'est pas trop un phénomène qui va induire du mouvement de terrain dans des zones en pente. La liquéfaction, c'est plus en bord de mer, en bord de rivière. C'est lié à des problèmes de terrain sableux. Qui sont complètement saturés d'eau. Donc c'est un problème un peu annexe. Généralement, c'est rare que sur un même terrain, on ait un problème de liquéfaction et on ait un problème de mouvement de terrain.
D'accord. Alors, je vous rappelle, M. Larogès, que nous sommes en direct et que par conséquent, les auditeurs peuvent intervenir s'ils le souhaitent, soit parce qu'on est passé trop vite sur une explication, soit parce que même aurait un témoignage, un exemple à donner. Donc nous avons deux numéros de téléphone, le 83 25 21 et le 83 48 61. Donc en direct de Radio Massabielle pour parler des mouvements de terrain. Et pour cela, nous avons un ingénieur géotechnicien, M. Larogès. Alors c'est quoi un ingénieur géotechnicien?
Alors un ingénieur géotechnicien, c'est un scientifique, si vous voulez, qui a étudié la géologie des sols et qui a aussi étudié la façon de de soigner, j'allais dire, les risques naturels liés au sol. Par exemple, les glissements de terrain, les chutes de blocs. Le géotechnicien, il va apporter son savoir pour dimensionner, calculer un ouvrage qui permette de tenir les sols. Donc on a des logiciels qui nous permettent, par le biais d'ordinateurs, de calculer, de dimensionner ces ouvrages-là. Bien entendu, avant de faire tout calcul, on vient sur le terrain, on fait des sondages sur le terrain, des forages, on fait des observations visuelles, et on compile toutes les données qu'on a obtenues pour essayer de conseiller la personne qui nous a commandé l'étude de sol sur la meilleure manière de traiter le terrain. Et bien sûr, la moins coûteuse possible, on essaye de développer des solutions qui soient acceptables et abordables pour les clients. Parce que ça peut être des particuliers, comme vous et moi, ça peut être aussi le conseil général, des collectivités, des communes, etc.
Donc l'ingénieur géotechnicien est plus un homme de pratique que le géologue, qui serait plus un théoricien.
Voilà, tout à fait. Un géologue, vous avez bien résumé, un géologue, c'est plus, je dirais, la science mère de notre activité, et la géotechnique, c'est plus de la géologie appliquée aux constructions, aux aménagements sur les terrains.
Ça s'apprend dans des écoles spécialisées, en université
Oui, en Guadeloupe, à l'Université des Antilles Guyane, vous avez un cursus qui permet d'avoir justement ces savoirs-là en géologie, géotechnique. Et après, généralement, pour terminer complètement la formation, pour les Guadeloupéens, il faut poursuivre sur 2 années en métropole sur des écoles spécialisées. Et après, on rentre dans le marché du travail. Et en géotechnique, il y a beaucoup de travail. Globalement, c'est pas un secteur en crise parce que ça englobe beaucoup de métiers. Les ouvrages d'art, les aménagements de terrain, ça peut inclure aussi... Nous, on intervient beaucoup pour des particuliers qui veulent construire sur des terrains, des collectivités, des communes. On donne des conseils sur la liquéfaction. Évidemment, par exemple, en Guadeloupe, dans une zone à risque sismique et où il y a beaucoup de pluie, on a beaucoup d'interventions à faire.
Donc, à la limite, on peut conseiller à nos étudiants qui sont en terminale et qui hésitent encore sur une voie de penser au moins à...
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il faut se renseigner avec l'Université des Antilles et de la Guyane. J'allais dire que ce métier-là, pour moi, il est intéressant parce qu'il allie la partie terrain.
Voilà, donc
globalement,
on est
tous les matins.
Dans un bureau.
Non, voilà. Tous les matins, on est sur le terrain, on est en contact avec les gens, on essaye de comprendre ce qui se passe et d'essayer de conseiller les gens vers ce qu'ils ont à faire. Et puis, globalement, l'après-midi, soit on fait des essais sur des matériaux dans des laboratoires, soit on rédige les rapports d'études qui vont permettre après à l'architecte ou au constructeur de développer son projet sur le terrain.
D'accord. Ma question est intéressée parce que j'ai mes petits-enfants qui sont au lycée
et il y a pas de soucis.
Qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent le faire.
Ça peut être une bonne idée.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que les jeunes, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, ils pensent souvent à des métiers standards, avocats, médecins, etc. Et il y a plein de professions.
Il y a plein de métiers comme ça.
Dont ils ignorent même l'existence,
tout
finalement.
À fait. Tout à fait.
Ou alors, il y a des métiers où c'est l'impasse parce qu'il y a déjà trop de personnes pour... les places disponibles, les emplois disponibles.
Voilà, c'est ça.
Il est toujours intéressant de donner ce type de...
Moi-même, ce métier-là, je ne le connaissais pas vraiment, en fait. Et je m'intéressais à la géologie un petit peu. Je voulais un travail quand même qui se passe un peu sur le terrain. Et c'est comme ça, de but en blanc, que j'ai trouvé ce cursus-là. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup inconnu, hein, de
Absolument.
Nombreuses personnes. Mais il y a plein de métiers comme ça. C'est pour ça qu'il faut arriver à creuser, se renseigner.
Et là, creuser ça peut être au propre figuré.
Oui, voilà. Tout à fait.
Alors, vos partenaires, ou enfin, les personnes, les services avec lesquels vous travaillez, ça peut être aussi bien le particulier qui veut construire, que l'architecte qui est en train de concevoir ses plans, que le bureau d'études calcul, enfin de bâtiment, oui, voilà, qui a besoin de savoir sur quoi il va se poser.
Voilà, tous les intervenants.
Et vous avez dit aussi les collectivités.
Les collectivités, les communes aussi, on travaille aussi beaucoup avec les communes. C'est très varié, mais c'est vrai que tous les acteurs de la construction en général, qu'ils soient architectes, bureaux d'études de construction, les communes, les collectivités, les maîtres d'ouvrage, peuvent faire appel un jour ou l'autre à un géotechnicien pour étudier le sol et voir, parce que là, ils ont peut-être détecté un problème, ils veulent un avis d'un expert agréé à ce niveau-là.
Alors, je voulais vous poser une question un petit peu délicate. Je ne sais pas si vous voudrez y répondre. Au cours des émissions précédentes, on a eu l'occasion d'évoquer les constructions sauvages, les gens qui construisent sans permis. Alors, du coup, il y a des constructions particulières, bien sûr, qui se font dans des zones invraisemblables, au sommet des collines, en bordure d'apic, etc. Est-ce que vous, connaissant les dangers, les risques que ces personnes encourent en construisant ce là, est-ce que vous avez un devoir d'intervention, d'alerte? Ou est-ce que ce n'est pas vos oignons, vous intervenez que si on vous consulte?
Alors, on n'a pas un devoir d'intervention ou d'alerte. Nous, on est un bureau d'études privé et on fait des études qui sont toujours sollicitées par une personne. Oui. Si on passe devant un terrain où on voit qu'il y a des choses vraiment qui sont très dangereuses qui sont faites, on peut éventuellement s'arrêter et essayer de discuter avec la personne, mais on va peut-être être plus ou moins bien accueilli, je ne sais pas. En tout cas, ce que je voulais dire...
Quand je dis alerte, ça peut être au niveau du conseil général ou de la commune, en disant, attention, vous avez un administré qui est en train de construire au bord de...
Alors, on fait des dispositifs d'alerte vis-à-vis du conseil général quand on voit sur un axe routier une zone qui est vraiment qui nous paraît en train de bouger. Et dans une zone, on parlait des mouvements de terrain tout à l'heure, par exemple sur la route des Mamelles, il nous est déjà arrivé d'appeler le conseil général pour dire vous devriez venir avec nous voir cet endroit-là, parce qu'on a détecté quelque chose qui... on peut pas rester... Si on l'a vu, il faut qu'on en parle quand même aux personnes concernées. Mais maintenant, comme vous disiez... La Guadeloupe se construit petit à petit et aujourd'hui, en 2014, on commence à construire dans des zones où on n'aurait jamais construit il y a 20-30 ans. On dit que les gens, ils ont quand même un certain bon sens, une certaine logique, et c'est vrai qu'ils avaient ce bon sens-là. Mais comme le foncier se réduit aujourd'hui sur la Guadeloupe comme ailleurs, on commence à construire dans des zones vraiment où je pense qu'on n'aurait quasiment pas construit... précédemment, et donc forcément ça demande des expertises dans ces zones-là pour voir concrètement si on peut construire et si oui, comment.
À l'inverse, il y a des gens qui ont construit et puis des travaux de terrassement ou de dérochement ou de carrière se font à la limite de leur propriété et se rapprochent dangereusement. C'est le cas au niveau de Pointe-à-Pitre-Gosier. Comme c'est un terrain calcaire et que c'est tentant de récupérer du tuf, on gratte, et puis on voit que le fond de taille se rapproche de la maison qui est au-dessus.
On voit beaucoup ça dans les grands fonds. Des gens qui ont construit, par exemple, en sommet de morne, sur des terrains rocheux, très bien. Et puis, la personne sur la parcelle voisine va décider d'exploiter son terrain pour une carrière et va terrasser à la verticale au niveau de la limite de sa parcelle. Et là, on peut comprendre que pour la personne qui habite en haut, autant avant, elle n'était pas trop soumise à des risques, autant maintenant, suite à ce terrassement, elle va être exposée à des problèmes, par exemple en cas de tremblement de terre.
Eh oui.
Et des problèmes qu'elle ne pouvait pas envisager au départ. Donc ça, c'est un vrai problème quand on a justement des choses qui sont faites comme ça, pas dans les normes, et qui induisent des risques pour les personnes voisines. Là, ça devient très très compliqué dans ces cas-là. Oui.
Alors, si le propriétaire de cette maison se rend compte, parce que c'est peut-être pas non plus évident, si l'accès à sa maison se fait par un autre trajet, il ne se rend pas compte que le chantier se rapproche dangereusement, qu'est-ce qui peut se passer? Qui va donner une alerte? Qui va...
Ben justement, bon, j'encourage la personne dans mon exemple qui habite au-dessus, justement, qui a construit il y a plusieurs années, d'être vigilant par rapport justement à ses limites parcellaires. Et si jamais il voit effectivement un gros terrassement qui a été réalisé comme ça au ras de sa parcelle, de nous appeler. Ouais. Et nous, on pourra venir lui faire une expertise de ce qui a été fait. Il aura comme ça un papier écrit technique qui dira les tenants et les aboutissants de ce qui a été fait à côté.
D'accord. Alors, monsieur, nous avons un appel. Oui, j'écoute. Allô? Allô, allô?
C'est une émission vraiment très intéressante. Oui.
Hein, ben, comme d'habitude.
Alors, je voudrais poser une question, enfin même deux questions. Je voudrais d'abord savoir, c'est quand des gens font des carrières, ils sont toujours autorisés. Parce que, par exemple, je vais à Mornalo souvent, chemin de la verdure, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de creuser une carrière. Alors que, comme vous avez dit, on parle tout à l'heure des grands fonds, qui avaient des gens qui avaient des maisons en haut du Morne, il y a des maisons en haut du Morne, et je vois que les gens creusent des carrières. Je voudrais savoir s'il y a toujours autorisation, soit municipale, soit gouvernementale. Et ma deuxième question, c'est parce que vous parlez surtout des montagnes, mais je voudrais savoir en tirer un plat. Par exemple, j'ai entendu dire souvent que Jarry, c'est très dangereux, que Jarry est une zone à risque, et les gens ont construit à Jarry, qu'il y a beaucoup de magasins à Jarry, et il y a des gens qui ont des maisons aussi à Jarry. Hein. Donc je voudrais savoir si vous en pouvez m'éclairer à ce sujet. Je vous remercie d'avance, je vous écoute à la radio.
C'est très bien, je vous remercie madame. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir vous donner une réponse catégorique pour la première question, puisque les questions d'autorisation... ça relève d'instances administratives et nous ne sommes pas qualifiés, ni M. Lauriès, ni moi-même, pour y répondre. Je suppose qu'en principe, en théorie, il faudrait une autorisation. Dans la pratique, de la même manière que les gens tracent des chemins, construisent un garage, construisent même une maison carrément sans autorisation, il y en a certainement qui font des carrières sans rien demander à personne.
Effectivement, pour la première question, d'abord je voulais dire merci à madame pour son intervention. J'imagine bien, de toute façon, pour commencer à faire une carrière sur son terrain, il faut quand même des autorisations. On fait pas, comme on disait tout à l'heure, des terrassements à la verticale sans aucune autorisation, puisque on l'expliquait, ça met en danger les personnes qui habitent à proximité. Donc, il faut une autorisation, probablement une autorisation d'abord municipale. Et encore une fois, j'encourage les gens qui habiteraient dans des zones mises en danger à cause de carrières, par exemple de nous appeler, nous ou des confrères, pour réaliser une expertise, c'est-à-dire qu'on vient sur le terrain, on fait des photos, on fait une note récapitulative de comment était le terrain avant et de comment il est maintenant, et on écrit noir sur blanc les dangers que ça peut occasionner. Ce qui fait que, avec cette note technique, la personne qui est potentiellement mise en danger par les carrières va peut-être pouvoir avoir plus de poids pour dire qu'il va falloir rectifier des choses, qu'il va falloir peut-être prévoir des murs pour tenir le terrain, pour garantir la pérennité de sa maison.
Il faut quand même rappeler qu'il y a l'ex des textes, même si je ne les connais pas, mais je sais qu'ils existent. Il y a eu des affaires qui sont passées en justice, où les juges ont été jusqu'à demander à l'auteur de ces fouilles de reconstituer le terrain tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire de remblayer. Je ne sais pas si ça s'est fait en Guadeloupe, mais j'ai vu des cas en métropole, oui, où vraiment ce type de carrière avait eu un caractère tellement dangereux, et à la fois pour l'esthétique, oui, puisqu'il y a aussi une question d'environnement,
c'est sûr, oui,
qu'on avait exigé de reconstituer, au moins partiellement, l'aspect visuel.
Oui, effectivement, ça peut être une solution de diminuer la hauteur de vide à l'arrière d'une maison pour éviter justement, par exemple en cas de tremblement de terre, même si c'est dans une zone à Mornalo ou dans les grands fonds où on sait que les terrains sont quand même rocheux, sont quand même de bonne qualité, mais ça n'enlève pas le fait que si on fait un gros trou sur plus de 5 mètres de hauteur, 5 à 10 mètres de hauteur, on est quand même face à des des dangers potentiels. Donc une des solutions, effectivement, ça peut être une décision de devoir remblayer ce trou-là pour éviter qu'il y ait une déformation de la falaise.
Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'en Guadeloupe, par exemple, certains itinéraires sont qualifiés de, je ne sais plus quel est le terme exact, mais enfin de sites à protéger, parce que le touriste qui s'y occupe sur cette voie, et il a droit à des paysages, à des panoramas particulièrement intéressants, et il est dommageable qu'il y ait une blessure dans le paysage.
Notamment les grands fonds. Hein. Les grands fonds, c'est une zone, j'allais presque dire une zone quasi unique dans le monde. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 sites comme ça dans le monde où on a une succession comme ça de mornes calcaires et de plaines. C'est très très rare quand même de trouver ces paysages-là dans des secteurs habités. Et il faut préserver cet espace-là. Et comme on disait, quand on terrasse comme ça à la verticale, il n'y a plus du tout de paysage. On casse complètement le paysage. Il faudrait réglementer justement ces carrières. Et puis, toutes les personnes qui veulent construire là, essayer de construire des maisons qui s'adaptent au terrain, qui s'adaptent à la pente. Ne pas vouloir construire, par exemple, une maison de plein pied sur un terrain qui est très en pente. Plutôt opter pour une maison en demi-sous-sol, c'est-à-dire avec 2 marches successives qui permettent de mieux épouser la pente et de mieux adapter la maison au terrain.
Alors, on peut aussi dire à notre auditrice qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a la société, l'entreprise, dont c'est l'activité principale, et qui prend les précautions administratives et techniques, généralement, avant d'exploiter sa carrière. Mais il y a aussi, je pense que c'est à ces gens-là qu'elle pense, il y a les particuliers qui estiment que c'est leur terrain, qui peuvent y faire absolument ce qu'ils veulent et qui foncent dans le tas sans aucune réflexion.
Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est un principal problème, effectivement. On est propriétaire d'un terrain, certes, mais il y a quand même des règles auxquelles on doit que l'on doit respecter pour tailler un terrain, pour aménager un terrain. Parce qu'on n'est pas tout seul, on a des voisins, on sait que la zone des grands fonds, c'est une zone avec des risques naturels de sol géologique, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut exploiter des terrains en carrière, mais il faut que ce soit davantage réglementé, et peut-être qu'il faudrait aussi que, je ne sais pas, les communes, les collectivités développent une charte, j'allais dire, faire une liste d'actions à respecter si on veut exploiter son terrain sous forme de carrière.
Mais sur le plan législatif, il est dit que le sous-sol appartient à l'État.
Tout à fait.
Autrement dit, quelqu'un achète un terrain, il en achète la surface.
La surface.
Et sur une certaine profondeur, il peut quand même fouiller pour planter un arbre.
Bien sûr.
Creuser pour mettre des fondations, mais s'il trouve du pétrole ou de l'or à 50 mètres de profondeur, ça lui appartient ou pas ?
Ou des vestiges, ça lui appartient pas. Ou
des vestiges archéologiques.
Par exemple, effectivement, le sous-sol n'appartient pas au propriétaire. La loi est comme ça, le sous-sol appartient à l'État. Donc si on trouve effectivement, on trouve par chance du pétrole ou sinon des vestiges archéologiques ou autre chose encore, on se doit d'informer les collectivités, d'informer les communes, d'informer les services afférents sur la découverte qu'on a faite.
Non, mais ça veut dire aussi que le gars qui cause une carrière
ne peut pas
à 20 mètres de profondeur,
tout à fait.
Il dépasse les autorisations légales.
Certainement, certainement.
Il vole l'État, en fait. Il nous vole, puisque l'État, c'est nous.
Oui, et puis il met en danger les personnes,
oui, surtout, ouais.
Ses voisins. Quoi. Bien sûr. C'est surtout ça aussi. Et s'il y a une route en dessous, il peut aussi mettre en danger des usagers de la route. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est des problèmes quand même à ne pas négliger. Ouais.
D'autant plus que les fonds de carrière sont souvent transformés en petits lacs en cas d'épisode pluvieux important.
Tout à fait, oui.
Alors que la nature n'avait pas prévu...
Tout à fait. Ça peut faire dévier le sens d'écoulement des eaux, ça peut modifier le système d'évacuation des eaux pluviales et générer des inondations dans des zones où initialement il n'y avait pas d'inondation.
Ouais. Alors, Monsieur Larvies, la deuxième question de notre auditrice concernant la zone de Jarry. Donc c'est vrai que Jarry a une altitude quasi nulle. Les terrains, une grande partie des terrains de Jarry sont remblayés de manière plus ou moins sauvage. Donc on n'est pas sûr que la façon dont ce remplissage de mangrove a été exécuté est efficace. Il y a effectivement plusieurs risques à ce niveau-là. Déjà, la montée des eaux. On en parle depuis quelques années quand même dans le monde. Si le niveau moyen de la mer monte de 3, 4, 5 cm, il y a déjà des parkings à Jarry qui seront sous l'eau.
Oui, c'est vrai que Jarry, il n'y a pas beaucoup d'altitude, comme vous le disiez, donc il est sensible à toute montée des eaux. En plus de ça, bon, on le sait, Jarry, c'est une zone qui a été anciennement remblayée en grande partie, peut-être pas du côté de... Il y a certaines zones à Welbourg qui sont des zones naturelles, oui. Mais plus on va vers la centrale EDF, le World Trade Center, plus on est dans des zones qui ont été récupérées sur la mer, qui ont été remblayées de façon plus ou moins appréciable. Initialement, c'était des zones de mangrove, comme vous l'avez souligné. Donc effectivement, c'est quand même des zones à risque, j'allais dire, c'est des zones à risque géologique. On fait beaucoup d'études à Jarry pour de nouveaux projets. On se rend compte d'ailleurs en faisant des forages qu'on rencontre des terrains de mauvaise qualité sur des épaisseurs importantes. Donc c'est vrai qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Jarry, c'est le poumon économique de la Guadeloupe. Il faut, comme je le disais, être très vigilant à ça. Maintenant, il y a des études qui sont quasiment obligatoires pour tout projet de construction nouveau à Jarry. Et voilà, que dire de plus. Après, il n'y a pas trop de problèmes de mouvement de terrain à Jarry parce qu'il n'y a pas beaucoup de zones en pente. C'est plus des problèmes de liquéfaction, voilà. Et des problèmes de terrain compressible, c'est-à-dire des terrains qui peuvent tasser avec le temps et les bâtiments qui peuvent s'enfoncer ouais. Doucement dans le sol, quoi. Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça aussi qu'on construit beaucoup à Jarry en structure métallique. Pas trop en béton armé, parce qu'on sait que le métal, déjà, c'est une structure beaucoup plus flexible que le béton, et c'est moins lourd. C'est moins lourd, ça occasionne moins de charges sur les terrains, donc ça sollicite moins quand même les sols. Donc c'est pour la raison pour laquelle on voit beaucoup émerger de bâtiments industriels à charpente métallique.
Mais les fondations, les supports de ces bâtiments, c'est plus des pilotis ou c'est plus des graviers ?
Alors les supports de ces bâtiments-là, certains bâtiments sont faits sur des pieux. Alors des pieux, c'est des colonnes en fait qu'on enfonce dans le sol, des colonnes en béton ou anciennement c'était en bois, qu'on descend en profondeur, très profond, jusqu'au bon sol. Pointe-à-Pitre aussi, il y a certains bâtiments, comme les tours de la Gabarre, qui ont été faits sur des pieux très profondément. Donc eux, normalement, les charges du bâtiment, elles sont directement transmises dans les bons sols en profondeur. Et vous avez effectivement plein d'autres bâtiments qui sont faits sur ce qu'on appelle des radiers, c'est-à-dire des dalles en béton armé qui sont posées sur du tuf qu'on a bien compacté. Comme on voit sur de nombreuses parcelles, en fait, on a enlevé peut-être 1 mètre de mauvais terrain ou 1,50 mètre de mauvais terrain. On a remplacé ce mauvais terrain par du bon tuf qu'on a compacté tous les 20 cm. Et à la fin, on a posé une dalle en béton armé pour faire après la construction. Ce qui permet, si jamais dans le temps il y a des petits mouvements, le fait qu'on ait fait une dalle en béton armé, ça permet de supporter beaucoup mieux de petits mouvements. Et du coup, le bâtiment reste beaucoup plus stable.
Oui, mon vocabulaire technique est à revoir.
Je ne sais pas si je suis un peu trop technique.
Mais... Non, c'est moi.
J'expliquais justement ce que c'était que le radier, parce que je sais que... Oui.
Mais alors, on va rassurer notre auditrice. La partie de Jarry où il y a des habitations, c'est plus vers Moudong, donc... Une oui. zone qui est en terrain naturel et qui
tout
n'est
à
pas
fait.
Du tout remblayée,
tout
par conséquent,
ouais, c'est ce que
les
je voulais
risques
dire.
Sont moindres.
Voilà. Sur Moudong, on a déjà fait plusieurs études et effectivement, les zones où il y a les habitations sont quand même dans une zone de Jarry qui est plus naturelle. Voilà. Donc les maisons sont posées sur du terrain naturel. On n'est pas sur des anciennes mangroves qui ont été remblayées. Par contre, c'est plus la partie industrielle qui, elle, a été reprise sur la mer et faite sur du remblai.
Alors, monsieur Langiès, on a beaucoup parlé de la Basse-Terre, de la Grande-Terre, mais nos dépendances, les Saintes, Marie-Galante, Désirade, est-ce que là, il y a des risques de mouvement de terrain ou est-ce que, vu la nature des sols, on est tranquille?
Alors, Marie-Galante, globalement, c'est une zone qui... c'est une île qui a de bons terrains. On a des terrains similaires à ceux qu'on trouve sur la Grande-Terre, c'est-à-dire des terrains calcaires, donc des terrains de bonne qualité. On n'a pas beaucoup de falaises, de zones en pente, à part au niveau de Morne-Piton, mais c'est tellement escarpé qu'il n'y a pas beaucoup de constructions qui sont à ce niveau-là. Globalement, on peut dire que toutes les constructions à Marie-Galante sont quand même dans des zones de bonne qualité, sauf peut-être celles qui sont situées juste en bord de mer, où là, c'est plus des terrains sableux. Il faut peut-être aller voir de plus près comment sont les terrains et comment ils pourraient réagir en cas de tremblement de terre ou de raz-de-marée, je ne sais pas. Mais globalement, Marie-Galante, on fait pas mal d'interventions là-bas, mais on trouve quand même des terrains globalement de bonne qualité. Il n'y a pas de gros risques. Ensuite, les Saintes. Les Saintes, c'est quand même assez réduit et on a... Par exemple, sur Terre de Haut, sur une toute petite surface, au niveau du bourg, on a des zones potentiellement liquéfiables, il faut vérifier, et puis on a des zones où les gens ont construit dans des zones en forte pente, et où là, on pourrait avoir des problèmes de mouvement de terrain. Donc encore une fois, c'est pas irréversible, ça ne classe pas les terrains en terrains inconstructibles, c'est juste qu'il faut faire des études, et il faut prévoir des solutions qui permettent de contrer ces phénomènes. Et puis la Désirade, c'est plus des phénomènes de chute de blocs rocheux qui viendraient de la falaise, là où il y a les éoliennes, et des chutes de blocs qui glisseraient dans la pente, qui rouleraient dans la pente, et qui pourraient atteindre des maisons qui sont situées plus bas. Donc Désirade et les Saintes sont un peu plus exposées, pour résumer, que Marie-Galante, du fait de sa topographie qui est bien plane, quoi.
D'accord. Eh bien, monsieur Larguès, sauf si vous avez d'autres points que vous auriez souhaité apporter à la connaissance de nos auditeurs, je pense que nous allons arrêter notre émission. Je rappelle quand même aux auditeurs qu'ils peuvent intervenir par téléphone, oui.
Oui, je voulais juste ajouter deux petits points. Rappeler que ce qui déclenche les mouvements de terrain dans des zones en pente, c'est principalement les séismes. Les fortes pluies, l'action de l'homme aussi, comme on disait, les carrières, ça peut engendrer après des mouvements de terrain. Donc on comprend bien pourquoi la Guadeloupe est principalement exposée à ce risque-là. Les fortes pluies, avec les épisodes cycloniques qu'on peut avoir, on peut tout à fait comprendre que ça génère beaucoup de glissements de terrain. Les séismes, on sait que la Guadeloupe est dans une zone fortement sismique. Donc tout est là. Toutes les raisons sont là, toutes les causes sont là pour le déclenchement de mouvements de terrain. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça.
Oui.
Ce que je voulais aussi dire, je ne sais pas si vous en avez parlé la semaine dernière, il existe dans chaque commune de la Guadeloupe un plan de prévention des risques naturels.
Oui.
Il est accessible gratuitement sur le site de la préfecture Guadeloupe, sur Internet. Vous allez sur ce site-là, vous tapez PPRN, comme plan de prévention des risques naturels, et vous allez voir le plan qui concerne par exemple votre commune, et vous pouvez aller voir comment est classé votre terrain. S'il est en zone blanche, il n'y a pas de risque de glissement de terrain à attendre sur le terrain. Si par contre il est en zone bleu clair, coloré en bleu clair, ça veut dire qu'il y a quand même un petit risque de mouvement de terrain. Les gens qui n'ont pas encore construit sur ces zones-là, on demande des études de sol obligatoires. Et après, vous avez les zones bleu foncé et les zones rouges qui, elles, sont des zones beaucoup plus à risque. Donc ça peut quand même être intéressant, même pour quelqu'un qui cherche actuellement un terrain à construire avant de commencer à acheter ce terrain, d'aller voir ce plan-là pour voir comment il est situé.
Absolument.
Et puis, dernier point aussi que je voulais dire, c'est bien attirer l'attention sur les auditeurs, sur le fait que... Il y a 20-30 ans, quand il y avait un tremblement de terre, il y avait des mouvements de terrain qui détruisaient des maisons. Les assureurs, globalement, arrivaient à rembourser les gens, à trouver des solutions. Mais aujourd'hui, maintenant que les normes existent, maintenant qu'il est obligé de construire parasismique, il faut bien comprendre que le jour où il va y avoir un gros tremblement de terre en Guadeloupe, il va y avoir des mouvements de terrain. Et si certaines maisons sont touchées, vu qu'aujourd'hui on a des normes à respecter, on ne peut pas dire on ne savait pas. Il y a les plans de prévention des risques naturels qui existent, on l'a dit, ils sont abordables par tout un chacun sur le site internet. Donc là, les assureurs vont probablement beaucoup moins facilement rembourser les dommages.
Ils seront fondés à dire que c'est de la faute de l'usager.
Voilà, ils pourront se retourner sur le fait qu'on était censé savoir qu'il y avait un problème sur ce terrain-là, etc. Donc, être très vigilant par rapport à ça, à la fois pour les gens qui ont déjà construit pour voir éventuellement s'ils ont besoin d'un conseil, oui. Et puis surtout pour ceux qui s'apprêtent à construire pour ne pas faire n'importe quoi sur leur parcelle.
Une question supplémentaire. Les gens qui font du déboisement un petit peu anarchique, est-ce que ça risque de favoriser ce type de dommages, de mouvement de terrain? Par exemple, un terrain qui serait un peu en pente et où on enlève tous les arbres pour mettre de la banane, de la canne ou des ananas, ça modifie la
structure générale. Oui, ça modifie, effectivement. Oui, le fait de déboiser toute une pente, ça va favoriser l'écoulement des eaux, l'eau va ruisseler sur le terrain. Il y aura les racines qu'on n'aura plus, vu qu'on a enlevé les arbres, et donc les terrains risquent d'être instables dans la pente. Alors attention, des fois les arbres, ça peut avoir un effet positif avec les racines, mais ça peut aussi avoir un effet négatif quand c'est des arbres très massifs, dans des zones très en pente, ça peut entraîner les terrains à glisser. Donc, il faut faire attention à tout ça, mais globalement, il faut quand même retenir l'idée qu'il faut conserver une certaine végétation pour que ça puisse stabiliser les sols en surface. Quand même.
Oui, parce que dans le temps, les gens déboisaient une petite parcelle,
voilà.
Une autre parcelle un peu plus loin, mais entre les deux parcelles, il y avait de la végétation.
Voilà.
Alors comme maintenant, comme il y a des tracteurs, il y a des camions, c'est on ça. A besoin de grandes surfaces planes, on a tendance à faire des grands espaces dénudés.
Voilà.
C'est pas,
à
c'est
tout
pas
terrasser toujours, et on rend instables les terrains, du coup, alors qu'avant, initialement, ils n'étaient pas instables, effectivement.
D'accord. Et je voulais aussi demander, les mouvements de terrain qu'on a évoqués pendant toutes les missions, ce sont des mouvements massifs, visibles. Est-ce qu'il peut y avoir des petits mouvements imperceptibles et qui durent dans le temps et qui, un beau jour, entraînent une conséquence?
Oui, tout à fait. J'ai l'exemple, par exemple, du lotissement d'Arnouville à Petit-Bourg. Peut-être certains connaissent les maisons qui sont situées en bord de mer. Elles sont toutes en train de glisser progressivement vers la mer. D'ailleurs, c'est une zone qui est actuellement un petit peu à l'étude, justement, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. Mais on observe, comme vous dites, des glissements très lents en profondeur et qui ne s'arrêtent pas. Et c'est vrai que si on fait rien, les terrains vont finir jusqu'au bord de mer et les maisons ne seront pas habitables.
Ben. Donc, pas faire peur aux
non,
gens,
c'est pour pas faire peur aux gens, mais c'est pour dire que ça existe effectivement. Je retiens cette zone-là parce qu'on l'a étudiée au sein du bureau où je travaille, mais il y a peut-être d'autres zones encore en Guadeloupe. Mais généralement, quand même, tout ce qui est glissement de terrain, c'est plutôt des mouvements brefs, des mouvements subis, des mouvements. Ouais. Deux heures avant, on n'a rien vu, et puis deux heures après, la route est fermée, quoi.
Bon, mais Monsieur Laugès, je vous remercie infiniment
de rien,
ce
merci
moment
à
passé
vous.
Ensemble. J'espère que nos auditeurs auront été encore mieux informés, toujours dans l'esprit de ce que nous faisons depuis
qu'ils n'hésitent pas à nous
semaines.
Appeler. Hein. Je voilà. Donne le numéro éventuellement.
Oui, s'il vous plaît.
05 90 94 21 08. On est situé dans la zone de Collin à Petit-Bourg.
D'accord.
Merci à vous.
Ok, un séjour.